Le magazine des Nations Unies.
Bienvenue à ce magazine des Nations Unies dont voici la charpente. Le PNUD a 50 ans d'existence. L'événement a été célébré à New York le 24 février dernier. Le programme des Nations Unies pour le développement a donc accompli un demi-siècle, dont 40 ans de coopération avec la République démocratique du Congo. Madame Priya Gajraj, directrice pays du PNUD en RDC, l'a rappelé mercredi à la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. C'est la grande actu de la semaine. Autre actualité, 10 millions de dollars américains du gouvernement suédois pour un projet sur la santé sexuelle et de la reproduction ciblant plus de 3 200 000 femmes et jeunes filles des quartiers défavorisés de Kinshasa. La ministre suédoise des Affaires étrangères était à Kinshasa pour soutenir UNFPA dans ce projet. Enfin, au Nord Kivu, plus de 500 personnes déplacées de retour dans leur milieu d'origine. Un retour volontaire facilité notamment par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Nous le disions dans le sommaire, le PNUD a totalisé 50 ans d'existence, un demi-siècle. Alors, Honoré Missenga, vous êtes avec moi dans ce studio. Bonjour.
Bonjour, Tina.
Alors, le 50e anniversaire du PNUD a été célébré, nous le disions, le 24 février dernier à New York. D'abord, Honoré, en quelques mots, en quoi consiste le mandat du PNUD?
Oui, Tina, éliminer la pauvreté et réduire les inégalités et l'exclusion, c'est cela le mandat de cette agence des Nations Unies.
Et par rapport à ce mandat, Honoré, quelles réalisations concrètes est-ce qu'on peut mettre à l'actif de cette agence en faveur de la RDC?
Oui, il faut d'abord noter, Tina, que la présence du PNUD en RDC remonte à 1976. Il y a donc 40 ans que le programme des Nations Unies pour le développement a signé son premier accord d'intervention dans ce pays. Alors, concernant les réalisations, écoutez plutôt la directrice pays du PNUD en RDC, Madame Priya.
Nous appuyons le pays sur la voie d'un développement multidimensionnel. Donc nous avons un rôle d'assistance, de conseil sur différentes thématiques, notamment le renforcement de la démocratie et de la paix, la réduction de la pauvreté et des inégalités, la protection de l'environnement et la résilience et la stabilisation. À la date de cet anniversaire, on voulait juste citer quelques réalisations du PNUD ici en RDC. Notamment, le PNUD a soutenu le programme de désarmement et de réinsertion communautaire en 2004, qui a permis d'encadrer 1150 ex-combattants congolais. Nous avons soutenu le premier forum sur la décentralisation qui a permis de forger une vision commune de la mise en œuvre des modalités de la décentralisation. Nous avons appuyé avec la mission et la communauté internationale les élections en 2006 et en 2011. Nous avons soutenu un vaste programme de gouvernance avec des résultats probants tels que, au niveau du Parlement, le temps d'examen de loi est passé de 8 semaines à 1 semaine. En termes de la couverture des magistrats, notre appui a pu aider à contribuer à cette couverture avec maintenant un magistrat pour 17 500 habitants. Avant, c'était un magistrat pour 38 500 habitants. Nous avons formé plus de 10 000 policiers congolais. En termes de planification stratégique, le PNUD a appuyé les stratégies de réduction de pauvreté, les deux DSRP, le rapport sur l'atteinte des objectifs des millénaires pour le développement, l'annuaire statistique qui vient d'être relancé ici en RDC après plus de 20 ans, et bien sûr le rapport sur le développement humain. Et tout dernièrement, on veut mentionner l'initiative sur la forêt de l'Afrique centrale, dont la RDC fait partie, et qui appuie les réformes dans le cadre de freiner la déforestation à travers des activités d'agriculture, d'aménagement du territoire, de gouvernance.
Donc Madame Priya Gajraj a brossé en quelque sorte le bilan des 40 ans de présence du PNUD en RDC. Qu'a-t-elle dit pour les perspectives?
Concernant les perspectives, la directrice pays du PNUD retient deux axes. Premier axe, le PNUD va soutenir une croissance inclusive en République démocratique du Congo.
Et qu'est-ce qu'on appelle croissance inclusive?
C'est une croissance profitable à tous, ou tout au moins au plus grand nombre, et non seulement à quelques privilégiés.
Et comme deuxième axe?
Le deuxième axe, lui, sera l'appui au nouvel agenda du développement, un agenda qui inclut les objectifs de développement durable, ODD. Cet axe TINA prend aussi en compte les programmes relatifs au changement climatique et bien entendu aussi au financement des projets de développement.
Recevoir avec nous, honoré Ami Senga, jeudi dernier, Madame Margot Wallström, ministre suédoise des Affaires étrangères, était à Kinshasa pour soutenir un projet du Fonds des Nations Unies pour la population. Alors, honoré, qu'est-ce qu'on peut retenir de la visite de la ministre suédoise et du projet en lui-même?
Parlons d'abord, Tina, du projet. C'est un projet, vous l'avez dit, piloté par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il porte sur la santé sexuelle et la reproduction des jeunes adolescentes et des femmes en âge de procréation. Coût du projet 11 654 140 dollars, dont 10 millions du gouvernement suédois, ce qui justifie d'ailleurs la visite jeudi dernier de la chef de la diplomatie suédoise à Kinshasa et sa descente sur terrain dans un centre de santé à Bumbu, le centre de santé Libondi. Quelques matériels de santé ont été remis à ce centre. Ensuite, la ministre suédoise a visité quelques services du centre de santé Libondi et suivi un témoignage d'une fille de 19 ans, mère d'un bébé de 4 jours. Un bébé que la ministre a comparé à un prince de la famille royale de la Suède, né juste la veille de sa visite en RDC.
J'aurais voulu que cet enfant ait les mêmes possibilités, le même accès aux ressources, à l'instruction et aux structures de santé que ce prince qui est né en Suède. Ça, ça devrait être notre réalité. Et le futur, c'est vous qui le possédez. C'est à vous de tenir redevable vos leaders politiques, de les forcer à vous assurer l'accès à la santé et à l'éducation. Nous venons en tant qu'amis de longue date au Congo. Nous allons continuer notre engagement pour un développement durable, mais aussi pour la consolidation de la démocratie au Congo. Et la base est aussi à partir des femmes, parce qu'une société où les femmes sentent qu'elles peuvent avoir un rôle à jouer, où leurs voix sont entendues, où leurs droits sont respectés, c'est une meilleure société pour nous tous.
Tina, maintenant écoutez un extrait du témoignage de la jeune fille qui a suscité la réaction de la ministre suédoise.
J'habite Bumbu sur Tatamena au numéro 113. J'ai eu ce bébé par la force des choses. Je n'étais pas heureuse, je ne supportais plus la misère de la maison. J'ai alors décidé de tomber enceinte pour avoir l'occasion de quitter la maison. Je suis effectivement tombée enceinte et j'ai vite rejoint l'auteur de la grossesse chez ses parents. Et 9 mois après, j'ai mis au monde, c'était dimanche passé. Aujourd'hui, c'est le 4e jour après l'accouchement. J'ai 19 ans, j'ai étudié jusqu'en 3e année des humanités.
Voilà, merci beaucoup honoré à Miss Senga. Nous allons revenir sur ce dossier avec comme invité la représentante de UNFPA en RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le cancer tue dans le monde et aussi en RDC, c'est pourquoi les Nations Unies consacrent le 4 février de chaque année à cette maladie pour s'arrêter un moment et réfléchir sur les moyens de lutter efficacement contre ce fléau. Nous revenons encore sur l'entretien que Jean-Pierre Lalicoco a eu avec le docteur Adolphe Kongolo. Il est chargé des maladies non transmissibles à l'OMS en RDC.
Docteur Adolphe Kongolo, bonjour.
Bonjour.
Le monde a célébré le 4 février dernier la journée mondiale de lutte contre le cancer. D'abord, docteur, qu'est-ce que c'est le cancer?
Le cancer, ou autrement dit, tumeur maligne, c'est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et au sein d'un organe normal, de telle manière que la survie même de ces tissus est menacée. Au cours de l'évolution de la maladie, certaines cellules peuvent migrer de leur lieu de production et former ce que l'on appelle des métastases. Et c'est ça même qui menace la vie des patients et entraîne que le dépistage soit vraiment précoce.
Là, c'est vraiment très scientifique. Pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on doit retenir?
Pour le commun des mortels, ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer, c'est un gonflement, une multiplication anormale des tissus, c'est-à-dire
des cellules
oui, au niveau d'un organe. Donc, quand au niveau de la peau, tu verras que ça gonfle. Il y a beaucoup de cellules qui gonflent. Au niveau du sein, ça gonfle. Au niveau aussi de l'intérieur de l'estomac, puisque c'est les cellules de tout le corps qui peuvent devenir cancéreuses. Alors, ça gonfle et ça se développe de manière anarchique. Ça prend les autres cellules et c'est un peu ça pour le commun des mortels. Même dans le sang aussi, ça peut faire de la même manière.
Donc, ça peut attraper n'importe quelle partie du corps.
Oui, toutes les cellules.
Ce qui revient qu'il y a plusieurs types de cancers. Est-ce que vous pouvez nous donner ces types de cancers et puis dire lesquels sont les plus courants en République démocratique du Congo?
Nous avons plusieurs cellules au niveau du corps, plusieurs organes. Et il y a plusieurs types de cancers qui peuvent attraper la peau, les yeux, les nez, la bouche, plusieurs. Mais au niveau de la RDC, nous avons quelques petits problèmes au niveau des données, mais nous avons essayé de faire une collecte active des données au niveau de 25 hôpitaux de Kinshasa et du Bas-Congo. Cette collecte nous a permis de voir que le premier cancer qui est le plus fréquent, qui est rentré dans cette collecte-là, c'est le cancer du col de l'utérus.
Chez la femme?
Chez la femme.
Oui.
On a pris de manière globale, mais on a vu que c'est ce cancer-là qui était le plus important, suivi du cancer de la prostate chez l'homme, qui était suivi du cancer du foie. Mais le cancer du foie, il y avait 3 fois plus chez l'homme que chez la femme.
Pourquoi, docteur?
Il n'y a pas de registre pour qu'on puisse entrer en profondeur. Mais après, c'est le cancer du sein chez la femme, les cancers des lymphomes. Ce sont, disons, des cellules des glandes, hein, les cancers des glandes. Mais notons qu'en dehors de cela, il y a les cancers de du rectum, les cancers d'œsophage, les cancers du poumon.
Il y en a beaucoup. Hein.
Il y en a plusieurs.
Et comment se fait alors les diagnostics de cette maladie, docteur?
Mais en tout cas, pour diagnostiquer, il faut absolument faire un prélèvement et regarder le type de cellules au niveau du microscope pour voir si ces cellules sont devenues métaplasiques. Pour le commun des mortels, ils doivent savoir que les cellules sont différentes de ce qu'elles étaient normalement. Donc, en principe, chaque type de cellule a une forme et une morphologie bien précise. Mais quand les cellules deviennent cancéreuses, elles prennent une forme qui est différente de la forme originale. Et en ce moment, on trouve que, au lieu, les cellules de cette place devaient être comme ça, mais elles deviennent différentes. Et c'est ça qu'on appelle les cellules métaplasiques différentes.
Est-ce que, docteur, quand vous dites que c'est une maladie qui se répand dans notre pays, est-ce qu'il y a moyen de prévenir un cancer?
Oui. Effectivement, les stratégies de prévention, notamment, c'est éviter les facteurs de risque. Et les facteurs de risque le plus important, c'est le tabagisme. C'est le premier facteur de risque le plus important. Il faut éviter le tabagisme. Il faut aussi
éviter la cigarette.
Oui,
par exemple.
La cigarette.
Il faut arrêter de fumer.
On a fait beaucoup d'émissions ici. Je crois que le gouvernement a même décrété des espaces non fumeurs. C'est pour, effectivement, lutter contre les cancers.
Et l'autre risque, c'est quoi?
Il y a beaucoup de risques. Il y a la surcharge pondérale. Donc, si les gens pensent que quand ils deviennent plus gros, ils deviennent en bonne santé, mais c'est plus dangereux pour eux. Ils sont à risque pour les cancers. Il y a une consommation insuffisante des fruits et des légumes. Puisqu'ici, je vois les gens aiment bien manger seulement la viande, le chikwang, et c'est fini. Non, il faut manger les fruits et il faut manger les légumes. Il y a un manque d'exercice physique. Les gens doivent vraiment faire de l'exercice physique. Il y a la consommation d'alcool qui est aussi à risque. Il y a des infections, comme les infections à HPV. C'est une infection sexuellement transmissible, qui est à la base des cancers du col de l'utérus. Il y a l'infection au virus de l'hépatite B et C. Et heureusement pour le pays, puisqu'il y a la vaccination contre l'hépatite B avec le programme élargi de vaccination. Vraiment, c'est ce virus qui est à la base de la majorité des cancers de foie. Il y a les rayonnements ionisants et non ionisants. Mm-hmm. Les rayonnements ionisants, c'est ceux qu'on attrape dans la radiologie. Il faut vraiment que les services de radiologie évitent que ces rayons attrapent et la population et le personnel qui travaille. Et les rayonnements non ionisants, ce sont les ultraviolets et autres, surtout pour les albinos qui sont beaucoup plus à risque s'ils sont exposés au soleil. Il y a aussi les pollutions de l'air des villes. Il y a les fumées à l'intérieur des maisons et même l'utilisation de combustibles solides à l'intérieur des maisons est très dangereux. Donc il y a plusieurs facteurs, les insecticides et les autres qui sont des facteurs de risque. Et là, il faut les éviter. Mmh. Et aussi, dans les stratégies, il faut aussi vacciner.
Il faut la vaccination.
Il faut vacciner contre les papillomes papillomavirus. Il faut vacciner contre l'hépatite B. Il y a certains risques professionnels pour les gens qui travaillent, par exemple, dans les mines. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire pour prévenir.
Le président de la Ligue nationale de lutte contre le cancer soutient qu'il n'y a pas des données disponibles sur cette maladie en République démocratique du Congo. Donc, pas des statistiques. Partagez-vous cette affirmation ou cette déclaration?
Oui, je partage cette affirmation. Il a raison. Nous avons des problèmes des données sur le cancer en RDC. Vous savez, le seul outil qui peut nous permettre d'avoir des données factuelles sur le cancer, c'est le registre de cancer. Nous n'avons pas encore de registre de cancer national ici en RDC.
Pourquoi même à l'OMS, on ne disposerait pas de ces données, même aider le gouvernement à avoir ces données?
Oui, l'OMS a déjà fait un effort, puisque l'OMS a aidé le pays à écrire la stratégie nationale de lutte contre le cancer du col et du col de l'utérus et du sein. Et dans cette stratégie, l'OMS a défini déjà le modèle de registre, le registre national et le registre hospitalier. Et ces deux outils ont déjà été approuvés. Maintenant, l'OMS
approuvé
va faire un effort. Approuvé par la CTLM, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui doit d'abord approuver ces outils avant leur mise en place. C'est déjà un très bon effort. L'OMS va faire un effort maintenant pour voir comment mettre en place ces outils.
Docteur Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup.
Environ 613 000 et 703 200 femmes enceintes des provinces de Kinshasa, du Haut-Katanga et de l'Ituri sont ciblées par un projet de vaccination de routine. Un accord de financement de ce projet a été signé lundi 29 février à Kinshasa entre l'agence coréenne de la coopération internationale COICA pour 4 millions de dollars américains et l'UNICEF pour 2 millions en présence du ministre congolais de la Santé publique. La durée du projet de 3 ans. Remerciant ses deux partenaires, le ministre Félix Kabangé a indiqué à cette occasion qu'il est urgent de renforcer la vaccination de routine afin de garantir à chaque enfant et à chaque femme enceinte, quel que soit l'endroit où ils vivent et quel que soit leur niveau économique, le droit d'être protégé contre toutes les maladies facilement évitables par la vaccination. Volet humanitaire, 11 des 26 provinces de la RDC touchées par des inondations enregistrées depuis les derniers trimestres de 2015. Une information donnée mercredi à la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le dernier cas en date est celui des pluies diluviennes tombées dans la province du Tanganyika. D'énormes dégâts matériels ont été enregistrés, laissant plus de 64 000 personnes dans le besoin. Depuis octobre 2015, plus de 550 000 personnes ont été sinistrées et plus de 65 000 abris ont été endommagés ou détruits, a précisé Florence Marshall de l'équipe pays des Nations Unies en RDC. Enfin, le premier dimanche du mois de mars est décrété Journée internationale de la radio et télévision en faveur de l'enfant. Dans le cadre de cette journée, les producteurs du monde entier sont invités à consacrer des émissions à la situation des enfants et à donner l'occasion à ces derniers de participer à la production de ces émissions. C'est le cas en RDC où l'UNICEF a fait recours à de nombreux partenaires des médias à cet effet.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme nous le disions, l'invité de ce dimanche est Dr Diène Keïta. Il est la représentante de UNFPA en RDC. Dr Diène était très heureuse de la visite de la ministre suédoise des Affaires étrangères jeudi dernier et de l'appui de la Suède au projet de la santé sexuelle et de la reproduction en faveur notamment des adolescentes des quartiers pauvres de Kinshasa. En marge de cette visite, la représentante de UNFPA a répondu à quelques questions d'Honoré Missenga Kalala pour le compte du magazine des Nations Unies. Suivez.
Madame, en quoi consiste concrètement le projet pour lequel la ministre des Affaires étrangères suédoise s'est déplacée ici?
Son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères de Suède, s'est déplacée pour visiter un projet de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes et adolescents dans la ville-province de Kinshasa. Cette coopération que la Suède a entamée au profit de la République démocratique du Congo à travers le Fonds des Nations Unies pour la population, des plus gros financements jamais octroyés par la Suède à un pays en Afrique. Et nous sommes très fiers d'avoir été le véhicule pour cela. C'est pour nous assurer que la santé des jeunes et des adolescents soit bien prise en compte, que les filles ne subissent plus les grossesses précoces, qu'elles puissent rester à l'école et surtout qu'elles aient le temps de rester des filles avant de devenir des femmes dans le meilleur intérêt de la population et du développement du pays. Mais pour cela, il faut que les garçons aussi soient éduqués conjointement avec elles pour qu'ils aussi prennent part dans leurs responsabilités pour assurer le futur de leur Congo à tous.
Oui, mais vous allez faire quoi concrètement? Quelles sont les actions prévues sur le terrain?
C'est une très bonne question et je vous remercie. Là, nous sommes dans un centre de santé. Donc, ce qu'on a visité aujourd'hui, ce sont les filles, malheureusement, qui ou soit sont victimes de mariage forcé ou de grossesse précoce, et donc qui viennent déjà. Sans, on n'a pas grand-chose que de nous assurer qu'elles ont le bon matériel, le bon appui clinique pour qu'elles puissent accoucher dans des conditions décentes, et celles qui ont des problèmes pour qu'on puisse leur prendre en charge. Mais à côté de cela, il y a aussi des centres d'éveil ou des centres de soins où on peut réunir les jeunes pour les sensibiliser à la santé de la reproduction, à la planification familiale et surtout à leur bien-être général.
Madame, pourquoi avoir seulement choisi Kinshasa?
On n'a pas choisi Kinshasa. Vous savez, en RDC, tout le monde aime la RDC. Donc, tous les donateurs sont présents en RDC. Et il y en a beaucoup à l'Est. Mais la population du Congo, qui est estimée autour de 80 millions, est plus grande que l'Est simplement. Et je remercie infiniment le Royaume de Suède d'avoir accepté, quand on leur a fait visiter les zones défavorisées de Kinshasa, de vouloir aussi intervenir ici, parce qu'après tout, c'est la première porte d'entrée dans ce pays. C'est une vitrine pour que les gens voient que la pauvreté, ce n'est pas seulement dans une région. La pauvreté est générale et l'effort est national pour nous assurer de diminuer cette pauvreté-là.
Et la Suède a donné combien? Vous avez parlé du financement.
Oui, la Suède a donné 10 millions de dollars.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous commençons dans Kivu, dans la périphérie de Goma précisément, où l'Organisation internationale pour les migrations OIM facilite le retour volontaire dans leur milieu d'origine de plusieurs ménages de déplacés. Ça a été le cas la semaine dernière où 200 ménages, soit 532 personnes au total, ont bénéficié de cette facilitation. Ces ménages vivaient depuis plus de 8 ans dans les sites de Boulengo et Mugunga 1. La Commission nationale pour les réfugiés, CNR, est aussi impliquée dans ces retours. Bernard Danyangi pour les détails.
La plupart de ces ménages sont rentrés dans le groupement Kamuronza, en territoire de Masisi. D'autres groupements du même territoire, notamment Fomando 1 et Bachali Mukoto, ont également été ciblés pour accueillir ces retournés. Selon le porte-parole du sous-bureau de l'OIM en Nord Kivu, l'OIM a mis à la disposition de ces ménages des attestations de retour volontaires pour faciliter leur identification en tant qu'anciens déplacés. Cela pour les aider à avoir accès aux divers projets d'assistance qui pourraient les cibler dans leur zone de retour. C'est une ONG locale, UVDES, partenaire de ce processus, qui a offert son appui logistique pour le transport de ces déplacés vers des centres proches de leur destination finale. Le porte-parole du sous-bureau Nord Kivu, Philippe Mouima, souligne toutefois que l'OIM procédera tous les mois à l'organisation des activités de facilitation des retours volontaires dans leur milieu des déplacés de Mugunga 1 et Boulengo, où vivent encore des dizaines d'autres déplacés. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Les opérations militaires FARDC et MONUSCO menées en Ituri ne sont-elles pas planifiées dans un délai? Suivez plutôt cette question posée à partir de Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire, mercredi dernier à Kinshasa donc, suivie, bien entendu, de la réponse du porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass.
C'est Isaac Nguenza pour le compte de Congo Opportunity Media. Ça fait plus de 10 ans ou plus, les FARDC mènent des opérations en Ituri soutenues par la MONUSCO. Et ma question est celle de savoir, ces opérations sont menées sans un timing ou il y a toujours un timing, une durée ou un délai ou encore une période bien déterminée mais qui n'arrive pas au succès?
Je vais tenter une réponse à votre préoccupation qui est relative au timing des opérations menées particulièrement en Ituri. Laissez-moi d'abord vous dire que ce n'est pas simplement des opérations menées en Ituri, c'est une caractéristique de la planification des opérations. Toutes les opérations sont planifiées, sont menées dans un cadre qui est bien défini, parce que vous savez qu'au-delà des activités tactiques qui sont menées, il y a tout un soutien logistique qui permet de poursuivre ces opérations. Donc forcément, ces opérations sont limitées dans le temps. Mais vous savez, des opérations peuvent être menées de manière sporadique, mais elles sont reprises une, deux semaines plus tard, après avoir, bien sûr, observé les mouvements de l'ennemi chaque fois que des regroupements sont observés et que on se rend compte que le taux d'attrition qui leur avait été imposé n'est pas si effectif que ça, ces opérations sont reprises. Oui, il faut se féliciter d'ailleurs qu'il y ait des opérations parce que, comme vous le savez, l'Ituri est une préoccupation majeure, surtout à cause des exactions menées par les FRPI dans cette région de la République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Ben, je m'appelle Bilanda Kumar Jud Mister, né et grandi à Kinshasa. Je suis marié et père de plusieurs enfants. Bon, le pluriel commence par le chiffre 2, hein, donc voilà pourquoi je dis je suis père de plusieurs enfants. Mes études, je les ai faites principalement dans la ville de Kinshasa. Après avoir décroché mon diplôme d'État en pédagogie générale, j'ai dû aller faire l'animation culturelle et développement à l'Institut National des Arts, INA, et j'en suis sorti avec un diplôme de licence après 5 ans de formation. Pour le moment, ben, je suis fonctionnaire des Nations Unies. En fait, c'est depuis fin 2007 que j'ai rejoint la grande famille OCAPI. Actuellement, j'ai produit les chroniques Inforoute à 7h28 et 8h28, donc deux fois dans la matinale de la semaine. L'agenda culturel qui passe à 6h20 et 8h20, toujours dans la matinale de la semaine. Et puis, point de vue des jeunes, qui passe dans l'après-midi, voilà, dans la tranche découverte vers 15h40. Alors chaque jour quand j'arrive au bureau, je commence par appeler tous les chauffeurs du dispatch Radio Capi, donc qui sont en ligne, pour avoir une idée sur ce qui se passe sur les différentes routes de la capitale, avant de passer l'antenne, bien entendu. Alors, juste après mes deux passages à l'antenne, je m'attelle au montage de la chronique Point de vue des jeunes. Donc il faut préparer le lancement, nettoyer les sons avant la diffusion dans la tranche découverte dans l'après-midi. Je termine ma journée en enregistrant l'agenda culturel qui sera diffusé le lendemain. Donc tous les fonds agenda culturel sont enregistrés la veille. Alors mes temps libres, je les passe devant la télé. Je regarde beaucoup les matchs de football, donc le football est mon sport favori. J'aime beaucoup le football. J'ai pas souci, mais parfois mon temps libre à regarder des films ou à lire, voilà. Donc je lis beaucoup aussi parfois, donc si j'ai un petit moment, je les passe en lisant, voilà. Alors, côté nourriture, je n'ai pas vraiment de préférence de ce côté-là. Je mange tout ce qui se mange, voilà. Donc, tout ce qui est comestible, moi, chez moi, ça passe. Alors, ma musique préférée, pas de préférence non plus de ce côté-là. Donc, je ne suis pas trop fan de musique. et puis, pour ce qui est de mes projets d'avenir, bon, les projets ils sont nombreux, mais bon, je préfère les garder pour moi, pour l'instant. Donc, pour l'instant, chers auditeurs, je ne dirai rien. Bien, pour l'instant, on est encore à la Monisco, donc voilà, en quelques lignes pour ce qui me concerne. Allez, salut à tous les auditeurs de Radio Capi.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un grand rendez-vous à noter dans votre agenda pour la semaine prochaine, la Journée internationale de la femme, le 8 mars, vous le savez, ce sera ce mardi. C'est à la fin du magazine des Nations Unies. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Vous tapez www.radiocapi.net. Merci d'avoir été de notre coordination et reportage assuré par Honoré Missenga. À la supervision, Martin Sebujangwe, à la technique ou mise en onde, Hippolyte Kapanga. Moi, c'est Tina Salama, je vous l'ai présenté avec le même plaisir. À très bientôt et bon dimanche chez vous. Ciao.